du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Écoutez toutes les voix du Mali. Bonjour et bienvenue. Les titres de cette édition. Le verdict dans le procès Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi devrait être prononcé aujourd'hui à la CPI. Le présumé djihadiste malien est poursuivi par la Cour pénale internationale pour son rôle dans la destruction d'une dizaine de mausolées et édifices religieux à Tombouctou pendant l'occupation. Les associations de défense des droits de l'homme attendent beaucoup de ce verdict. Selon elles, une peine exemplaire va non seulement mettre fin à l'impunité, mais également réhabiliter les populations de Tombouctou et du Mali. Deux personnes, dont un agent de la garde nationale, ont été tuées ce dimanche au quartier Abaradjou dans la ville de Tombouctou. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des gens assis devant une maison. 3000 logements sociaux seront disponibles en fin 2016. L'annonce a été faite hier par le ministre du Logement lors de la 39e session du conseil d'administration de l'Office malien de l'Habitat. À Tito Kanté pour la présentation de cette édition. Le verdict dans le procès Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi devrait être prononcé aujourd'hui à la CPI. Le présumé djihadiste malien est poursuivi par la Cour pénale internationale pour son rôle dans la destruction d'une dizaine de mausolées, édifices religieux à Tombouctou pendant l'occupation. À Tombouctou et chez les organisations de défense des droits de l'homme, ce verdict est très attendu. Les explications avec Issafa Kabasisoko.
Le 22 août dernier, lors de l'ouverture de son procès, Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi a plaidé coupable et demandé pardon aux Maliens et aux populations de Tombouctou en particulier. Pour certains observateurs, cette stratégie de défense pourrait plaider en sa faveur dans l'annonce du verdict. En effet, dans son réquisitoire, le bureau du procureur avait pris en compte des circonstances atténuantes pour l'accusé et reconnaissant toutefois qu'Ahmad Al-Faqi doit être puni conformément au statut de Rome sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'accusation a requis une peine de 9 à 11 ans d'emprisonnement pour le présumé djihadiste. Selon elle, cette peine s'inscrit dans le cadre de l'entente intervenu entre l'accusé et le bureau du procureur. Cette entente qui n'engage pas les juges prévoit que si l'accusé plaide coupable, le procureur pourrait requérir une peine de 9 à 11 ans de prison à condition que l'accusé ne fasse pas appel de sa condamnation. Ce réquisitoire sera-t-il suivi par les juges? La réponse devrait être connue aujourd'hui. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, plus connu sous le nom de guerre d'Abu Tourab, était l'un des chefs d'Ansardine à Tombouctou pendant l'occupation et membre de la ESBA, la brigade des mœurs. Arrêté au Niger, la CPI a demandé son extradition.
Les associations de défense des droits de l'homme attendent beaucoup de verdicts du procès d'Al-Faqi. Selon ces organisations qui s'attendent à une peine exemplaire, cela va non seulement mettre fin à l'impunité, mais également réhabiliter les populations de Tombouctou et du Mali. Madame Boiré Bintoufoune Samake est présidente de l'ONG Wildaf Mali. Elle est jointe au téléphone par Hamadou Maïka.
Nous attendons beaucoup de ce verdict parce que un fait là, c'est que ce verdict va mettre fin à l'impunité. Et le second, c'est que tous ceux qui étaient en relation avec Al-Faqi et qui ont contribué à la destruction de ce mausolée se diront que quelque part, ils sont poursuivis. Ça va réhabiliter les populations du Mali de façon générale et de Tombouctou. Mais aussi, ça va donner de l'espoir aux victimes qui vont se dire que même si cela doit prendre du temps, il y aura quand même des personnes qui vont répondre. Et je m'attends à ce que Al-Faqi soit lourdement condamné.
Nous savons aussi qu'en mars dernier, vous avez contacté Madame le procureur pour qu'elle puisse poursuivre d'autres personnes impliquées et aussi pour qu'elle puisse élargir les charges contre Mohamed Al-Faqi. Où en êtes-vous?
De ce côté, le procureur nous a rassuré que des enquêtes continuent et s'il y a des personnes à poursuivre, ces personnes vont répondre de leur acte. Donc nous restons confiants.
Studio Tamani vous invite à consulter sa page Facebook et son compte Twitter pour vos réactions et commentaires à ces informations. Deux morts, dont un agent de la garde nationale, c'est le bilan d'une attaque survenue ce dimanche au quartier Abaradjou dans la ville de Tombouctou. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur des gens assis devant une maison. Le point avec Samba Doumbia.
Le drame est survenu hier soir vers 19h à Abaradjou, dans la ville de Tombouctou. Des sources locales, les assaillants qui étaient entre 3 et 4 personnes sont venus à bord d'une voiture Toyota. Lorsqu'ils sont arrivés près de leur cible, ils ont aussitôt ouvert le feu sur les occupants de la devanture du domicile. Deux personnes ont été tuées, dont un agent de la garde nationale. Une troisième aurait échappé. Les deux victimes appartiennent à la communauté Arawan de Tombouctou. Cette communauté avait bouclé une rencontre juste avant le drame. Des témoins sur place estiment qu'un règlement de compte serait à l'origine de cet assassinat. En attendant, les assaillants restent introuvables et jusque-là, aucune revendication n'a été faite. Les populations de Tombouctou qui sont sous le choc se disent préoccupées par la récurrence de ce genre de crimes dont les auteurs disparaissent après le forfait. Pour rappel, entre décembre 2015 et septembre 2016, la ville de Tombouctou a enregistré 3 cas similaires, faisant en tout 6 morts, dont 2 membres des forces de sécurité.
Et les autorités locales pensent avoir toujours collaboré avec les forces de défense et de sécurité pour prévenir ce genre de crimes. Cependant, selon elles, les stratégies mises en place sont limitées. Ces autorités affirment qu'une enquête est en cours pour retrouver les assaillants. Khalifa Aga Imama, adjoint au maire de Tombouctou, joint au téléphone par Ibrahim Arash Diallo.
Il paraîtrait que les gens seraient tranquillement assis quand un individu est survenu à bord d'un véhicule. Et puis voilà, il les a arrosés. Donc deux messieurs sont arrêtés, dont un garde.
Qu'est-ce qui explique la récurrence de ce cas de crime à Tombouctou, puisque ce n'est pas la première fois?
Je ne saurais trop vous dire. Ce que je sais par contre, c'est que vraiment c'est une situation qui nous préoccupe en tant que citoyens tout court de Tombouctou.
Quelles sont les mesures en tout cas qui ont été prises ou qui sont envisagées pour limiter ces cas de crime?
Nous sommes toujours reportés à nos services de défense et de sécurité. On leur a toujours fait appel pour essayer de monter des stratégies vraiment pour limiter cet état de fait. Mais on voit que ça continue.
Est-ce qu'une enquête a été ouverte par rapport à ce cas précis?
Il y a une dame qui a été interpellée. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment une enquête qui est en cours.
Comme annoncé dans le sommaire, 3000 logements sociaux seront disponibles en fin 2016. L'annonce a été faite hier lors de la 39e session du conseil d'administration de l'Office malien de l'habitat. Selon les responsables de l'OMH, un comité de réflexion sur le mode de financement a été mis en place. Toutefois, ils affirment que plusieurs conventions ont été signées sans un plan de financement conséquent dans le but de réaliser 50 000 logements. Ousmane Kone, ministre de l'habitat et président du conseil d'administration de l'OMH. Il est au micro de Imirana Kilumega.
2016 a été une année de réalisation d'un nombre très important de logements et de recherche de solutions pour le financement des logements sociaux. 3000 logements sont attendus à l'horizon fin 2016. Un groupe de travail chargé de réfléchir et de proposer des mécanismes de financement innovants a été composé avec des cadres des ministères en charge des finances et ceux de l'habitat. Au titre de 2016, le budget a été exécuté en recette à hauteur de 18 102 134 173 francs CFA et en dépenses à hauteur de 9 801 163 590 francs CFA, soit respectivement un taux de réalisation de 77,86% et un taux de 42,39% par rapport au budget prévisionnel.
La 9e édition de la Journée mondiale de la contraception a été célébrée hier au Mali. Cette journée a pour objectif d'inciter les jeunes à prendre conscience de l'importance de la contraception et à sensibiliser les femmes sur les différents types de contraception. Selon les spécialistes, les conséquences des contraceptifs sont dues au choix d'une méthode inappropriée. Docteur Alassane Diko, médecin responsable de la santé et de la reproduction au micro de Awa Berté.
Les avantages des contraceptifs, elles sont nombreuses. Le premier, ça c'est l'espacement de naissance. Chez les jeunes filles, c'est à peu près dans un but de lutter en grande partie contre non seulement les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, mais en même temps de réduire ou alors sinon de stopper les avortements clandestins. Les inconvénients ou alors les conséquences sont des trucs qui peuvent être évités. Lorsque les gens prennent l'initiative de venir dans les structures de santé qualifiées pour qu'on leur donne l'information qu'il faut pour qu'on fasse le préliminaire avant de les mettre sous une méthode. Les contraceptifs, il y en a beaucoup. Le premier, ça c'est le préservatif. C'est le moyen le plus simple et le plus accessible à tous. Il y a des méthodes de courte durée, il y a les méthodes de longue durée et il y a les méthodes de barrière.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale à Yoroso, le directeur du centre d'animation pédagogique de Yoroso a rencontré ce dimanche les directeurs d'école et les représentants des syndicats d'enseignement du cercle. L'objectif était de prendre des mesures pour améliorer le faible taux de réussite au DF. L'année dernière, ce taux était de 27%. Au cours de cette rencontre, il a été aussi question de l'application de la méthode syllabique et l'assainissement des cours d'école. Des hommes armés ont emporté ce week-end des troupeaux d'ovins et de caprins dans le village de Nyodou. Djougou dans un cercle de Niafenke. Les bandits ont d'abord procédé à des tirs de sommation avant d'emporter tous les petits ruminants qui se trouvaient dans le village et ses périphéries. Les habitants de la zone se disent terrifiés par ces multiples attaques et vols de bétail. Ils réclament plus de sécurité à l'État malien. Les responsables du parti politique Alliance pour la République ont tenu ce dimanche une rencontre à Gundam. Il s'agissait de mettre en place le bureau de la section de la localité et faire le pont des préparatifs des élections communales prochaines. Une centaine de personnes ont participé à la rencontre. Les responsables des associations de santé communautaire des 5 communes du cercle de Bourem ont bouclé ce dimanche un atelier sur la gouvernance et la gestion. L'objectif de cette session était de redynamiser les comités de gestion, d'administration et de surveillance. L'atelier a aussi permis un échange d'expériences entre les responsables. Financé par le CICR, la session a duré 3 jours. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous juste après le magazine. Ce sera la version Bambara de cette édition. Une présentation de Mariam Koulibaly.